mediafm.org ainsi que sur vos plateformes préférées.
Bonjour, ici Aude Malaret. Vous habitez Limoilou dans un quartier à proximité. Vous empruntez souvent la 8e avenue dans vos déplacements à vélo. Avec l'arrivée prochaine du tramway, qui empruntera l'axe du chemin de la Canardière, la ville de Québec souhaite réaménager la 8e avenue. Un meilleur partage de l'axe entre usagers et un accès efficace aux autres corridors cyclables sont prévus. À travers ce projet, la ville souhaite offrir un réseau cyclable convivial, sécuritaire et accessible pendant les 4 saisons. Ce réaménagement s'inscrit dans le projet de vision des déplacements à vélo adopté en mai 2016. Rappelons que la ville de Québec désire se doter d'un réseau cyclable sécuritaire et utilitaire, continu et accessible à tous. De nombreux cinéastes, documentaristes et artisans du milieu du cinéma québécois signent une lettre pour remettre en question le sous-financement de la production des films documentaires au sein de la SODEC. Leur lettre dénonce, entre autres, une coupure de 50% des investissements de la SODEC dans la production documentaire au cours des 10 dernières années. Signée par plus de 650 personnes, la lettre regroupe de très nombreux cinéastes et producteurs, productrices, tant en fiction qu'en documentaire, mais aussi des artisans, scénaristes, écrivains, écrivaines, acteurs, actrices. Toutes et tous s'accordent pour rappeler le rôle fondamental joué par le cinéma documentaire au Québec, non seulement sur le plan de l'histoire du cinéma québécois sur la scène mondiale, mais aussi sur le plan de la réflexion démocratique apportée par les films documentaires. Une immense méduse fait son apparition à l'Aquarium du Québec. Composée de déchets et de matériaux de plastique retirés du Saint-Laurent, l'œuvre d'art se nomme « Plastique Médusa » par l'artiste Alex Côté. Près de 2000 débris polluants et déchets de plastique, répertoriés par l'artiste selon leur singularité et leur provenance, se retrouvent dans les tentacules de cette œuvre suspendue au pavillon des eaux douces et salées à l'Aquarium du Québec. Lancé en 2021, le projet À la rencontre du fleuve a pour mission de sensibiliser les jeunes du primaire et du secondaire aux enjeux écologiques du fleuve Saint-Laurent, de l'océan Atlantique et des Grands Lacs. Pour souligner l'inauguration de l'œuvre Plastique Médusa, l'artiste Alex Côté sera sur place à l'Aquarium du Québec aujourd'hui. Petits et grands pourront aussi participer à des ateliers créatifs en lien avec l'œuvre les 5 et 6 mars à l'Aquarium. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA FM 88.3 et CKIAFM.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain, ils remuent leur derrière en disant « Thank you very much, Monsieur Trenet ». On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles tout le jour.
Bonjour et bienvenue à l'émission. Moi, je sais le joie de m'y faire sur les ondes de CKIA FM à Québec le et également sur Facebook Live, encore à travers le monde. Je m'appelle Larry Hodgson et on va parler aujourd'hui de jardinage, même s'il ne fait pas si chaud que ça. D'ailleurs, la première constatation avec le nouveau mois qui vient de commencer, c'est qu'on a eu un mois de février froid encore. Après un mois de janvier plus froid que la normale, un mois de février plus froid que la normale aussi. Il y a quand même eu quelques moments un peu plus doux, mais en général, presque partout dans le mois, plus froid le jour, plus froid la nuit, le vent du nord nous a gardé au frais. Et c'est encore le cas. Le début du mois de mars est encore plus froid que la normale partout au Québec, je pense bien. On annonce quand même un peu de redoux dans les prochains jours, mais paraît-il que le froid va revenir par la suite. Donc, on peut prévoir un mois de mars un peu plus froid que la normale. Voilà. Que voulez-vous? Les choses se suivent et se ressemblent dans ce cas-là. Ah, et d'ailleurs, quand un hiver plus froid que la normale, ça arrive de temps en temps, bien sûr, s'il y a une normale, nécessairement, il va y avoir un hiver plus froid que la normale, un hiver moins froid que la normale. Mais habituellement, l'été qui suit est moins chaud aussi. Alors, ça prend du temps avant de récupérer. quand le sol est bien gelé, c'est pas aussi vite que ça. Donc voilà, on voit le météo pour vous m'envoyer que ça monte à Québec en haut de zéro. Tous au cours de la fin de semaine. Il paraît que ça va rebaisser pas de suite. En tout cas, voilà, c'est vraiment... c'est froid, mais écoutez, c'est quand même froid. C'est pas normal. Ma foi, c'est juste froid. Et on s'acclimate à ça. Nos plantes sont... Rendu là, nos plantes sont habituées. Il faut quand même penser que, veuve pas, la température va monter un peu au mois de mars. Ça monte toujours au mois de mars. Et c'est la fin. Ça dépend des régions. Il peut y avoir une certaine fonte ou une bonne fonte de neige. Ça dépend. Ça dépend où vous êtes. Et à date, c'est un hiver dans le côté froid que nous avons vécu. Et l'autre chose que j'avais à noter, c'est Marlène qui m'a envoyé un communiqué de presse hier sur les nouveaux timbres avec des calas. Donc, si vous êtes intéressé, achetez des timbres. Moi, quand j'ai des timbres thématiques qui me concernent, donc un domaine de jardinage, habituellement, je vais les voir. Comme ça, je vais sur l'Internet ou je vais plutôt en magasin les acheter. Et comme ça, je me fais des réserves et je les utilise. Donc, si vous êtes intéressé, ils sont déjà au Poste-Canada, au Canada. Si vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas prêt à les avoir, mais prêt, demandez à vos amis de Canada de vous envoyer une lettre d'ici. Ce sera une façon de les avoir. Donc, voilà. Avec ça, mais c'est fini pour mes commentaires, sauf le fait que c'est comme moi, j'ai commencé à faire quelques petites boutures, je vais aligner mes semis, je mets en ordre, je vais commencer bientôt. T'sais, les jours rallongent, puis pas mal. On va arriver quand même à 12 heures de soleil vers la fin du mois. Fait qu'on arrive à une période où, personnellement, je juge que je vais quand même faire des boutures, parce qu'avant que la bouture réagisse, on va être pas mal proche. Oh, la date fatidique du 12 heures par jour et plus, qui fait en sorte que les plantes réussissent beaucoup mieux. En plein hiver, c'est pas facile de partir des choses, mais quand les gens rallongent, pas mal comme ça, ça devient plus facile. Voilà, on va laisser place maintenant à vos questions.
Avant de parler de questions, Larry, t'as oublié de mentionner que le retour de ta chronique dans le soleil.
C'est vrai aussi que j'ai recommencé à écrire ma chronique, en tout cas dans le soleil à Québec. Je le fais depuis 34, 35, quelque chose comme ça, année. Je écris le soleil. Au début, j'écrivais toute l'année. Ils m'ont coupé. Et là, je fais juste de mois de mars à fin d'octobre. Mais quand même, ça a recommencé pour l'année. Théoriquement, la chronique est pour le 5 mars, samedi, mais il paraît que c'est déjà en ligne.
Ben, donc, je viens de partager le lien dans le chat, donc les gens qui voudront lire ta chronique de cette semaine dans le soleil pourront le faire.
Parfait, merci Michel. J'aurais jamais pensé de faire ça.
c'est pour ça qu'on est une bonne équipe, toi et moi. Ce que tu penses pas, j'y pense, c'est vice-versa.
Parfait, Michel.
on va pouvoir y aller avec les questions maintenant que toutes les plugs sont faites. Virginie Picard nous dit que ça fait du bien de parler de jardinage parce que, bon, tu parlais qu'il fait froid. On est encore bien, bien, bien dans l'hiver. D'ailleurs, on est l'endroit le plus froid en Amérique du Nord actuellement.
Oh, ça me surprend pas.
Manon Bernier. Bonjour, ma question c'est, est-ce que de la neige fondue peut servir pour arroser des plantes d'intérieur qui n'aiment pas l'eau calcaire? Merci.
Oh, bien sûr. C'est sûr que l'eau de pluie ou l'eau de neige fondue, c'est qu'il y a la même chose, en fond. C'est une eau qui est douce. Je dis pas qu'il y a pas quelques particules qui pourraient le rendre un peu moins douce, mais c'est une eau douce. Il n'y a à peu près pas de calcaire là-dedans. Ça pourrait être intéressant. C'est certain que ce qui est un peu plate, prenez une bonne quantité de neige, vous faites fondre et vous n'avez pas tant d'eau que ça. Et oui, on peut absolument faire ça pour les plantes qui n'aiment pas l'eau calcaire, entre autres les plantes insectivores en général, détestent l'eau calcaire. Et ce serait un produit qu'on pourrait utiliser. D'ailleurs, au moins les neiges sont disponibles tout l'hiver. La pluie, si vous n'avez pas un bruit pour l'attraper, Depuis l'été, il faut être là au bon moment. Mais avec la neige, dans ma région du Moyen-Québec, il y en a tout le long de l'hiver. Il y a toujours moyen d'en trouver. Donc oui, on peut le faire fondre, mais quand même pas l'utiliser. Il faut le mettre au moins à la température de la pièce. N'oubliez pas que la température de la pièce pour l'eau est beaucoup plus froide que l'air. Hein? Comme il y a de l'évaporation, et l'évaporation demande de l'énergie. Donc, ça veut dire que l'eau est beaucoup plus froide que l'air. Les plantes préfèrent l'eau à peu près la température de l'air. Donc, si vous faites des galets un peu plus chaud, ce serait mieux.
Chantal Soulard, faut-il planter les graines de semis dans des, entre guillemets, petits contenants?
Oui. Ben, c'est pas obligatoire. J'explique. Quand vous semez les graines sortent, ont quelques racines, c'est tout petit, mais si la racine, et la plante grossit, les racines aussi. Mais si la plante tout petit reste dans un gros pot, supposons que vous avez pris une petite semence de rien, vous avez mis dans un gros pot, les racines n'arrivent pas à absorber l'eau tout autour. Et cette eau-là reste là, il y a tendance à devenir stagnante. Stagnante veut dire plusieurs choses, mais dans le sens qui nous intéresse, ça veut dire qu'il n'y a plus d'échange d'air, il n'y a plus d'oxygène qui rentre. Et donc, ça peut provoquer éventuellement la pourriture. Donc, on préfère un terreau qui va s'assécher assez rapidement. Donc, quand vous mettez des petites plantes dans des petits pots, le terreau va sécher plus vite, même avec des racines limitées, et ça va bien aller. Par contre, si vous semez plusieurs graines dans un même pot, on peut prendre un pot plus gros, bien sûr. Idéalement, ce serait un pot pas profond. Pas ça. Cet effet-là se fait sur le fond, profondeur, autant que la largeur. Mais on peut quand même faire ça et avoir du succès. Donc, petit pot pour les boutures et pour les semis. Quand ils grossissent, on grossit le pot. Et c'est la même chose pour les plantes intérieures. Quand la plante est tout petite, petit pot. À mesure que ça grossit, on grossit le pot avec. De façon à arriver à un bon équilibre. Voilà.
Joanne Guy. Bonjour. Peut-on partir le gingembre à l'intérieur pour le transplanter à l'extérieur?
Oh, bien sûr, faudrait presque. Le gingembre est une plante très tropicale, ne tolère nullement le frais, mais vraiment pas. Donc, et si vous essayez de planter ça au Québec en général, avant que le sol soit assez doux, on parle de fin de juin au mois de juillet. C'est loin, ça. Et ça vous donne pas beaucoup de temps pour le cultiver parce que le foie arrive vite. Donc, ceux qui veulent expérimenter la culture du gingembre, ça peut se faire. Il faut le porter dans la maison, probablement fin de mars ou début d'avril, à la chaleur, et même pas l'acclimater à l'extérieur tant que les nuits ne sont pas plus chaudes, assez chaudes. Parce que la plante, encore une fois, c'est vraiment le foie. Il ne faut pas cette plante-là. Elle n'a aucune tolérance du foie.
On parlait de gingembre, justement. Une question de Kim Fortin. Les feuilles de mes tiges de gingembre ont des petites taches jaunes. Est-ce normal?
Non. J'essaie de penser qu'est-ce que ça peut être. Si vous ne voyez pas d'insectes, peut-être une question de culture. Souvent, ce qu'on voit quand l'air est trop sec, ce n'est pas des taches jaunes, mais le bord de la feuille qui s'assèche ou le fait qu'il s'enroule un peu. Donc, des taches jaunes, je ne suis pas trop certain. Qu'est-ce que c'est? Je m'excuse.
On y va maintenant avec Steve Gagnon, qui dit qu'il a vu un article aussi dans Le Devoir.
Oui, le soleil est associé avec d'autres journaux. Et mes articles paraissent dans tous ces journaux-là. D'ailleurs, je ne savais pas avant l'an dernier. Je ne sais pas combien de temps que ça dure, d'ailleurs. C'est comme tout d'un coup, je dis, « Ah! » Il aurait dû m'augmenter, hein? Vu que je fournis à plusieurs journaux. Mais en tout cas, c'est Pierre dans Le Devoir, Pierre à Ottawa, je ne me souviens pas quel journal, à Sherbrooke.
Le quotidien à Saguenay également. En fait, je crois qu'ils sont, de mémoire, là, ils sont six journaux là, qui et qu'ils ont formé une espèce de coopérative avec le soleil, entre autres. Là.
Donc, moi, je suis D'ailleurs, juste en passant, je suis pas un employé du Soleil, ni de cette association-là. Je demeure toujours, puis je suis traité de l'extérieur.
D'accord. Donc, maintenant, on va y aller avec la question de Jeanne Ouellet. Une question. L'année dernière, je me suis construit un composteur rotatif à l'aide d'un baril de plastique que j'ai perforé. Le résultat de compostage après quelques semaines était bien brun-noir, odeur, entre guillemets, terreuse, ingrédient méconnaissable, mais me semblait un peu gluant. Me faut-il seulement ajouter davantage de feuilles mortes? Ce sont des feuilles de chêne que je déchiquette à la tondeuse.
Mais quand c'est trop humide, ça peut facilement arriver et que ce soit gluant. Souvent parce qu'il y a plus de matière verte que de brune, si on veut. Les matières vertes sont riches en azote, d'accord, mais aussi liquides. Il y a beaucoup d'eau là-dedans. Et quand c'est un peu trop, ça peut faire ça. Et les matières brunes, habituellement, sont sèches. Donc, ça réduit le surplus. Donc, il faut peut-être augmenter la part des feuilles et mettre un peu moins d'autres choses dans les brins de gazon. Mais vous avez sûrement d'autres choses. C'est très bien, composteur. C'est pas juste ça. C'est plein d'autres choses. Mais un peu plus de brun. D'ailleurs, beaucoup de jardiniers gardent des feuilles brunes, des feuilles mortes, en sac pour mettre dans le composteur au cours de l'été. Parce qu'on découvre vite l'été que les matières vertes à mettre dans le composteur, il n'en manque pas l'été. On en trouve plein. Mais les matières brunes l'été, c'est pas évident. Fait que les feuilles mortes peuvent être très utiles pour ça. Et déchiqueter, c'est toujours mieux parce que les grosses feuilles se décomposent lentement. Et encore plus, dans votre cas, c'est des chênes. Les chênes sont parmi les plus lentes à se décomposer. Fait que c'est sûr qu'en petits morceaux, ça va mieux.
Annie Hull demande si... En fait, elle dit qu'elle a trouvé des bulbes de tulipes qui n'avaient pas été plantés. Que puis-je faire avec ces bulbes?
Alors, écoutez, très aimant de voir que les bulbes n'ont pas gelé. Parce que ça serait la pire des choses. Parce que les bulbes tolèrent le froid un peu. Mais si elles n'ont pas commencé à pousser, ne parlent pas de gel, il aurait fallu que ça commence à pousser avant de les faire subir du froid. Donc, évidemment. La chose la plus logique à faire, ce serait les composter. Bon. Par contre, c'est certain que la bulbe n'est pas encore morte, probablement. Dans ce cas, vous pouvez toujours empoter ou attendre encore une semaine ou deux, un mois peut-être, et les planter là quand il fait encore froid. Parce qu'il faut que le sol soit froid pour que ça aide. Et la plante va peut-être, la bulbe va peut-être pouvoir prendre racine et faire des racines. Par contre, c'est ça que je dis aussi bien de les composter. C'est très peu probable que vous ayez des fleurs cette année-ci. Peut-être l'an prochain, peut-être pas. Ça prend beaucoup de temps de récupérer une situation semblable pour les plantes.
Max Sauvageau. Après un choc, entre parenthèses, déménagement, mon ficus lyrata a totalement perdu ses feuilles. Après un mois, les feuilles reviennent enfin, mais sur le tronc. Dois-je tailler les branches? Le bon moment pour le fertiliser. Merci.
Écoutez, ça, quand vous voyez une situation semblable, c'est le plante a eu un choc du haut foie. Les feuilles sont tombées parce que, je ne sais pas comment, mais il y a une exposition au foie. Et voilà, les feuilles sont tombées. Et il faut croire que, vu que les nouvelles pousses viennent du tronc et pas des extrémités des branches, il faut croire que le foie est assez pour endommager la branche. Donc oui, vous pouvez couper les branches. S'il n'y a pas de repousse, ça ne sert plus à rien. Coupez-les, cherchez d'où ça commence à pousser, coupez juste en haut de ça, et la partie qui ne pousse pas, mettez ça au compost ou autre chose. Et la plante va reprendre. Vu que vous voyez la croissance, ça va reprendre. Il n'y a pas de problème. Et ça va même reprendre assez rapidement. Vous serez surpris, Charles, de voir à quelle vitesse que de nouvelles grosses feuilles vont paraître. Mais les parties qui sont encore brunes, s'il repousse vers le bas, puis rien dans l'eau, l'eau l'a oublié, ça c'est fini. Côté le bon moment pour fertiliser. Moi, je dirais d'abord, laissez la plante récupérer un peu. Donnez-lui un mois ou deux pour commencer à refaire des feuilles et commencer à fertiliser. Normalement, j'aurais dit, il n'y a pas vraiment de crime à commencer à fertiliser au début de mars, puisque dans 3 semaines, les racines vont commencer à pousser à plein régime. Mais pour une plante qui est encore un peu sous le choc, laissez la recouper un petit peu d'abord. Et là, vous pouvez mettre un peu d'engrais. Et d'ailleurs, ce n'est pas une plante qui a besoin de beaucoup d'engrais. Hein. Une petite dose, cadre la recommandation, par exemple.
La question vient maintenant de Michela Andronescu. Quel type d'engrais suggérez-vous pour les amaryllis?
Et je vais donner le même genre de réponse. Toujours quand on pose une telle question, n'importe quel engrais. L'idée que les plantes ont besoin d'un engrais spécifique pour faire quelque chose, ou un certain type de plante, un engrais, si on a un engrais spécifique, et soit fausse ou tellement mineure que ça n'a pas d'importance, ou pas, tellement pas d'importance. Ce n'est pas la peine d'aller chercher un engrais pour les plantes à fleurs, un engrais pour les plantes à feuilles, un engrais pour le gazon. Les minéraux, c'est des minéraux. Les plantes ne savent pas distinguer. Donc, prenez l'engrais que vous avez déjà sous la main, ça va être correct. Il y a quelques très rares cas où une certaine plante a besoin de quelque chose de bien spécifique, et c'est tellement rare que c'est presque pas la peine d'en parler. Normalement, tout bon engrais va être bon pour toutes les plantes, peu importe ce qui est marqué sur l'étiquette. Donc, allez-y avec. Vous avez seulement de l'engrais chez vous, ça va être bien parfait.
Linda Lamy, j'utilise du marc de café dans certains plants extérieurs l'été. J'ai en main du vieux café moulu et au lieu de le jeter, pourrais-je l'utiliser au jardin?
Oh, absolument. Il n'y a aucun problème. L'âge, ce n'est pas d'importance. C'est un produit qui va libérer des minéraux en se décomposant, qui va ajouter une certaine matière organique au sol aussi. Donc, l'âge n'a pas d'importance avec un produit semblable.
Donc, on poursuit avec la question de Aiden Knight. Bonjour, M. Hutchison. Question sur les Hoya. Est-ce une bonne idée de couper les tiges qui ont perdu leurs futures feuilles? Elles ont séché et elles sont tombées. Et la deuxième question, c'est est-ce grave de couper les racines aériennes pour des raisons esthétiques? Merci.
OK. Pour la première partie de la question, non, s'il y a pas, ce qui va se passer, si les feuilles sont tombées, et ceux qui connaissent le Hoya, il faut comprendre comment ça pousse. C'est une plante grimpante, hein? Donc, elles forment des tiges qui peuvent être courtes et compactes au début, mais on s'allonge énormément. Et si ça perd ses feuilles sur la tige, elle va avoir une longue tige avec rien. De nouvelles feuilles ne paraîtront pas, là. Peut-être une nouvelle pousse, mais pas de nouvelles feuilles. Ce qui fait que vous aurez une longue tige nue. Est-ce que c'est beau à voir? Sinon, couper, ça va repousser de la base. Il n'y a aucun problème pour faire ça. Sinon, vous allez avoir une longue tige nue avant d'avoir des feuilles. Moi, je pense que ce serait l'idéal dans un corps comme ça. Là. Et aussi, les racines aériennes. Certaines plantes en produisent. Hoya, philodendron, anthurium, orchidée, etc. Ces racines-là servent dans la nature. La plante se fixe sur son support et, dans certains cas, d'absorber les minéraux et de l'eau, etc., etc. Dans la maison, au moins d'avoir une situation spéciale comme quelqu'un qui plante sur une plaque de bois ou sur une tuteur en mousse, ça ne sert à rien, ces racines-là. Donc, vous pouvez les couper, il n'y a aucun problème.
Rita Fortin, est-ce que c'est le temps de mettre mes géraniums en terre? Merci et bonne chance.
Oh oui, pas mal, oui. Ça sent bien la période où on commence à s'activer. Hein. Donc, s'ils sont dans des pots, on peut le petit pot de mettre dans des pots plus gros. S'ils sont au sec, il faut commencer à les empoter. N'oubliez pas que les grains ont besoin de soleil. Hein. Ça donne beaucoup de soleil. Donc, quand vous jugez que, dans mon cas, par exemple, mon sous-sol est encore. Mes fenêtres sont encore sous la neige. Et que ça ne donne rien de courir pour mettre des choses en pot dans un cas semblable. Mais si chez vous, c'est dégagé, vous pouvez commencer. Et encore une fois, il n'y aura pas trop de réaction au début parce que les jours sont encore un peu courts. Mais ça vient vite, ce ne serait pas long. Donc, vous pouvez les emprunter maintenant, il n'y a pas de problème.
Lucie Desjardins, que pensez-vous du vermicompost et comment commencer?
Bon, le vermicompost, c'est un produit excellent. C'est un des meilleurs composts qu'on peut avoir parce que non seulement c'est riche comme tout compost, mais c'est plus riche que la plupart. les vers. En plus, elle ajoute des choses qu'on ne trouve pas nécessairement dans d'autres composts. Donc, c'est un produit qui est intéressant. Pour commencer, il faut trouver quelqu'un qui fournit des vers. Vous ne trouverez pas ça dans les magasins. Pas encore. Qui sait? Peut-être que quelqu'un va finir par les offrir. Mais en tout cas, pour l'instant, on ne les trouve pas dans les magasins. Évidemment, les faire venir pour la poste, c'est bien-ci. Un peu risqué. Ça n'aime pas le gel. Ça n'aime même pas le froid. Donc, il faut trouver un fournisseur local. Mais il y en a un peu partout au Québec. Pour ça, vérifiez avec votre société d'horticulture. Sûrement que quelqu'un connaît ça. Ou quelqu'un qui s'occupe d'un jardin communautaire, par exemple. Ça, on répète, où en trouver localement. Ou faites une recherche sur Internet. Mais si vous prendrez vraiment des vers, pas n'importe quel ver de terre, vu que ça va être à l'intérieur, ça prend des vers habitués à la chaleur. Et il y a des vers, en fait, c'est des vers rouges. Fait que, Eisner, en fait. Mais peu importe, ces vers-là, on peut les trouver. Et ça vous prendra un contenant qu'on peut fabriquer sur le site jardinetaireussite.com. Vous allez trouver comment fabriquer votre propre contenant et vous allez trouver d'autres détails sur le vermicompostage.
Sylvie Aubin te demande, on voit de plus en plus de gens utiliser les bacs surélevés pour faire leur potager. À part éviter les dégâts des petites bêtes indésirables ou pour minimiser les blessures au dos, y a-t-il d'autres avantages?
Oh oui, il y a quand même plusieurs. Ce n'est pas que des avantages. Il y a des désavantages aussi. Disons comme avantage, il y a le fait que ça réchauffe plus vite au printemps, mais aussi ça devient des fois trop chaud aussi, fait que du pouvoir de compte, il y a toujours ça. Et ça garde plus de chaleur au début de l'automne, mais c'est quand même quelque chose qui peut être intéressant. Il y a moins de mauvaises herbes aussi qui arrivent à se rendre dedans. Habituellement, on a mis une terre de qualité, fait qu'on a passé pierres qui font bifurquer des racines de nos carottes, etc. Donc ça, c'est une autre bonne chose. Mais c'est surtout pour le côté pratique, pour les gens qui n'ont pas accès au sol. Parce qu'il reste quand même, côté négatif, c'est plus d'arrosage, c'est plus d'entretien en général. Il faut faire une fertilisation un peu plus assidue dans un jardin plein terre. Dans la nature, donne plus de coups de main avec la fertilisation naturelle. Et dans un contenant, il y a un peu moins de plantes qui se décomposent pour aider. Donc, il y a quand même des pour et des contre. Personnellement, dans mon cas, moi, je suis handicapé. Je le dis pour le contraire, je suis handicapé maintenant. Et c'est bien pratique pour des gens comme moi qui ne peuvent pas, justement, se plier, pencher, se mouvoir facilement. Donc, ça, ça donne un grand avantage pour les gens dans mon cas.
Sylvie Aubin, c'est l'autre question d'après. Steve Gagnon, j'aimerais savoir comment fonctionnent les analyses de sol et comment on peut s'en servir.
OK, analyse de sol. C'est une façon de vérifier qu'est-ce qui se trouve dans un sol qu'on utilise pour le jardinage. Donc, normalement, on va soit le jardin ou la pelouse ou un potager ou une plate-bande, ça dépend quoi. L'idée est d'analyser le sol pour voir son contenu, quels minéraux sont présents, c'est quoi son pH, son niveau acidité, alcalinité. Et ça, c'est des choses que l'analyste peut nous donner. Maintenant, il existe des petits kits nécessaires d'analyse de sol. Tous les centres jardins en vendent. C'est à peu près la même chose que les analyses de l'eau d'une piscine. Le problème, c'est que ça ne vous dit pas grand-chose. Ça vous indique peut-être que votre sol est acide, un peu, mais ça ne vous dit pas quoi faire. C'est un peu plate, mais ce n'est pas cher. Il y a ça. Par contre, la vraie analyse de sol, ce n'est pas fait dans un instant, c'est dans un laboratoire. Donc, vous envoyez des échantillons au laboratoire, le laboratoire analyse. Il revient avec pas juste le pH, vous allez voir ça aussi, mais avec des recommandations, c'est ça qui est intéressant. Donc, vous allez avoir un rapport qui indique vous avez tel pH, vous aurez besoin de faire ci pour corriger, s'il y a besoin de corriger. Votre sol manque en magnésium ou peu importe, il faut faire ci, faire ça. Donc, c'est intéressant parce que vous avez vraiment des explications sur quoi faire. Et ça, vous ne l'avez pas avec une analyse, avec une nécessaire. Maintenant, tous les centres urgents offrent le service, en tant que je sache. Également, la plupart des quincailleries aussi offrent le service. Mais c'est comme pas visible. C'est ça qui confond les gens. Les gens sont, on est habitués d'aller dans un magasin et tout voir. Ah, je veux de la terre, de terre est là. Je veux une plante, la plante est là. Je veux des outils sont là. Où est l'analyse de sol? Ce n'est pas visible. Vous parlez à un commis, certainement. Ils vont vous expliquer. Et ça dépend avec qui votre centre Jardin est associé. Parce qu'il y a plusieurs compagnies qui le font. Ils vont peut-être vous donner un petit pot à remplir à la maison. Ils vont peut-être donner un petit sac. Ou ils vont peut-être vous donner juste des instructions et vous mettez dans un sac ou un pot chez vous. Donc, il faut quand même attendre que le sol soit bien, relativement bien séché. On ne peut pas faire une analyse de sol quand c'est détrempé ou trop au printemps. Il faut attendre un peu. Mais après ça, on peut prendre des analyses et ben, lisez les instructions. Mais normalement, on prend des analyses à plus qu'un endroit dans le jardin, à une certaine profondeur, parce que vers le haut, ce n'est pas la même chose que vers le bas. Pas tout de suite après une fertilisation, ça fausse les résultats. Il y a des petites contraintes comme ça. Mais vous allez le recevoir. Et c'est pas... La dernière nouvelle, ça fait quelques années que je ne l'ai pas fait là. C'est à peu près $20. Et ça prend près de 2 semaines pour avoir des résultats. Donc, je trouve que ça vaut la peine de faire ça de temps en temps. Si vous avez plusieurs jardins avec des buts différents, l'idéal, ce serait de faire une partie de jardin. Vous protégez, il n'y a pas besoin de la même chose que la plate-bande de fleurs. Et surtout pas la même chose que la pelouse. Donc, ce serait bien de faire des analyses dans chacun de ces jardins-là.
Marielle Larenarde, que pensez-vous des lampes sur trépied ajustables avec 4 têtes indépendantes de lumière LED ayant une combinaison de lumière rouge, bleue et lumière chaude? Mes plants d'hibiscus vivaces et futurs plants de tomates à ne pas trop s'étioler jusqu'à à leur sortie dehors. Merci beaucoup.
OK. Ça me paraît presque excessif. Est-ce que vous avez vraiment besoin de 4 têtes indépendantes? Et blablabla. C'est pas certain, mais ça devrait marcher pareil. Si vous avez un bon prix, allez-y. Ce trépied, le fait que ce soit ajustable, c'est drôlement intéressant parce que les plantes poussent certaines moins vite que d'autres. Fait qu'on peut avoir besoin d'ajuster la hauteur en cours de route. Donc, ça pourrait être bien. Le fait qu'il y ait des lumières rouges, bleues, ce n'est pas autant d'importance que d'avoir une lumière blanche qui contient toutes les lumières, tous les rayons. Fait que, je sais qu'il y a une mode pour les bleus et les rouges parce que ça paraît, mais ça ne change pas grand-chose. Vos plantes vont paraître mieux sous un éclairage un peu plus naturel et ça vous donne des bons résultats pareils.
Jeannette Ouellette, Elle te remercie pour le conseil. Elle dit qu'elle est arrivée un petit peu en retard ce matin en début d'émission et elle veut savoir si tu as répondu à sa question de la semaine dernière à propos du nouveau distributeur d'inoculants Rhizobium.
Bon, je ne l'ai pas fait. Il faut que je mette ça une façon de voir. Ah ben, c'est marqué en haut de ma page en plus. Ah, c'est stupide. En fait, je m'excuse. Je vais essayer la semaine prochaine. Je m'excuse, mais je sais qu'il y a quelqu'un parce que je l'ai vu. Donc, c'était quelque part. Je reviens avec.
Parfait. Donc, on continue avec la question de Sylvie Lalonde. Je fais du vermicompostage dans un grand bac situé dans mon sous-sol. Tout va très bien, mais je me demandais s'il était important... Attends, ça a bougé. Je me demandais s'il était important de contrôler le ratio de matière brune verte comme on le fait pour le compostage traditionnel?
Pas autant, vraiment pas beaucoup. Ce n'est pas la même situation. Vous avez des vers de terre qui vont composter les deux. C'est dans un... Normalement, on se fie sur les champignons qui font le gros travail. Les champignons réussissent surtout quand il y a de nature verte, bien sûr, mais assez limitée, pas trop. Alors que les vers de terre, ça ne dérange pas grand-chose. Donc, mettez des déchets, des cuisines, etc., sans problème. Évidemment, si vous mettez beaucoup de choses très liquides, vous mettez que des fruits, par exemple, ça pourrait avoir un certain problème, trop de liquidité. Donc, on pourrait mettre quelque chose d'un peu plus sec, comme des feuilles mortes. Mais, ou du papier journal, ça, les verres aiment bien ça. Mais, normalement, c'est pas un problème. C'est pas un facteur vraiment important pour lever mes compostages.
Rita Fortin écrit que ça fait 3 ans consécutifs qu'elle achète un plant de feuilles de laurier et dès que les feuilles qu'elle les recomposte, les feuilles brunissent et tombent et mon plant meurt. Que faire?
Ça, c'est surprenant. Parce que normalement, le laurier, ça s'appelle laurier, Laurus nobilis, c'est un arbre que nous ne voyons pas sous forme d'arbre au Québec parce qu'on a des petits spécimens de rien, mais c'est un arbre qu'on peut utiliser comme petit arbuste et ça pousse extrêmement lentement, mais bien plus fidèlement. Donc, si ça meurt si rapidement que ça, peut-être qu'il ne faudrait pas le remplacer dans un pot trop gros. C'est la seule chose que je peux penser. Comme ça a des racines assez limitées, qui ne vont pas très loin, ben moi, je vais le garder dans un pot relativement petit. Par contre, si le pot est si petit que la plante sèche complètement en moins d'une semaine, bon, intéressant. Il faudrait que ce soit un peu plus gros que ça. Mais peut-être que le pot est trop gros, tout simplement. Et évidemment, le meilleur moment pour le faire, c'est au printemps. Ce n'est pas une plante qui réagit rapidement, quoi que ce soit. Super, super lent, le laurier. Donc, le faire fin d'hiver, début de printemps, ce serait un bon moment. Et pas dans un pot beaucoup plus gros. Juste un peu plus gros, si vous jugez que ça sèche trop vite.
Rita Fortin. Les feuilles... non, excuse, c'est beau. C'était l'autre question. Clémence Carrier. Pour des verres à vermicompost, contactez l'organisme Crack Bitume. Moi, j'en ai eu en demandant sur Facebook. Ceux qui font du vermicompost ont des verres qui se multiplient assez vite, alors ils en donnent.
Oui, c'est sûr. Crack Bitume est une excellente source à Québec. Peut-être qu'ils envoient par le poste aussi, je ne sais pas. Mais d'autres régions, bien sûr, ce n'est pas nécessairement la place. Mais Crack Bitume, oui, est une excellente source de verres. Et effectivement, une fois que vous avez des verres, habituellement, vous en avez assez pour donner à tout le monde. Hein. C'est très prolifique.
Sylvie Aubin, j'habite en face d'un champ de grande culture. Je veux me faire un petit potager, mais je crains le manque de pollinisateurs et je fais quoi et je ne sais quoi d'autre. Est-ce que je peux faire quelque chose pour prévenir les problèmes?
Bon, vous êtes en face des champs de grande culture. Vous avez quand même donc au moins une route entre vous et le champ. Donc, j'aurais pas trop peur que quoi que ce soit, j'espère en tout cas, soit vaporisé à bout de chez vous. Surtout que théoriquement, et d'ailleurs de plus en plus, les agriculteurs sont devenus très, très scientifiques. Hein? Et donc beaucoup plus au courant des effets des traitements qu'ils donnent. Donc il y a moins de risques. Les traitements sont de plus en plus localisés. Ils vont pas loin. Bon, OK, de ce côté-là. À côté, pas votre pollinisateur. C'est sûr que si vous avez une champ de maïs à la grandeur, vous n'avez pas d'insectes pollinisateurs dans ce secteur-là. Le maïs ne les intéresse pas. Donc, vous allez peut-être avoir des problèmes d'approvisionnement d'insectes pollinisateurs. Par contre, vous avez les... Donc, ça, c'est en face. Les deux côtés, en arrière de la maison, avez-vous la végétation? Ça pourrait aider. Une chose qui pourrait vous aider beaucoup, ce serait d'avoir un jardin de fleurs. C'est sûr que souvent, on recommande, je ne dis pas de ne pas le faire non plus, de planter des fleurs à travers les légumes. Ça aide, mais c'est beaucoup, beaucoup plus efficace d'avoir un jardin carrément consacré aux fleurs, juste à côté. Là, vous avez comme un aimant pour les insectes. Il y a des masses de fleurs. Ça les attire énormément. Ils vont le découvrir de loin. Et quand vous avez ce jardin de fleurs tout près d'un potager, les chances d'avoir des bons pollinisateurs augmentent énormément. Ce serait peut-être ça que vous devriez faire. Avoir une belle plate-bande d'annuel ou de vivace, peu importe, et quelque chose avec beaucoup de fleurs pour attirer des insectes pollinisateurs dans le secteur.
Jeanne Ouellette, encore une fois. J'ai oublié de démarrer le traitement au froid de ma lavande le mois dernier. Devrais-je laisser tomber cette étape ou décaler le calendrier? Entre parenthèses, débuter un mois de traitement au froid maintenant, puis les sortir au chaud pour 10 semaines au lieu de 14.
Bon, la seule différence, la lavande n'est pas, comment dirais-je, il y a des plantes où le traitement faut être absolument obligatoire, mais absolument. La lavande est comme juste moins vite. Et de toute façon, les nappes pour la lavande, il faut quand même le dire. Vous parlez d'une plante qui prend beaucoup de temps, mais beaucoup de temps avant de germer, de pousser et de produire quelque chose. Donc, ça va juste ralentir. De toute façon, la lavande ne serait pas prêt à récolter la première année. Hein? Ça va être la deuxième ou troisième année. C'est vraiment pas vite, la lavande. C'est ça que la plupart des gens partent par bouture plutôt que par semis. C'est tellement là à produire.
Malheureusement, je n'ai plus de questions pour l'instant de mon côté. Okay. J'imagine que tu en as quelques-unes par courriel.
Et j'en ai un ici que j'ai eu ce matin. Je me suis dit, ah, pourquoi pas? Je vais peut-être déjà dit, mais on va le répéter. Il y a Nadia qui écrit, qui dit, je voulais vous demander à quel endroit je pourrais acheter cette vivace. Puis elle me donne le nom de vivace. Il n'y a pas si longtemps, jusqu'au mois de décembre, j'aurais répondu à cette question-là. J'aurais fouillé sur l'Internet, j'aurais cherché, j'aurais trouvé une source, puis j'aurais envoyé ça, et j'aurais passé une demi-heure, 40 minutes à chercher et répondre à ça. Là, je n'ai essentiellement, j'ai plus de santé pour faire des choses semblables. J'ai essayé de conserver mes efforts sur d'autres choses, comme donner sur Facebook Live, ou écrire des textes pour la page web ou pour le soleil, autre chose. Répondre aux questions individuelles comme ça, c'est compliqué. Et je pense, surtout dans un cas comme ça, vous comprenez que moi, je ne sais pas la réponse. Si vous me posez la question, où trouver vivace X, moi, je ne sais pas où en trouver. Il faudrait que je regarde moi-même. De parler sans faire jardin, ne me disent rien. Zéro, pas un mot. Moi, au cours de l'année, je ne reçois aucune nouvelle des centres jardins, même des centres jardins locaux, avec locaux où je fais mes propres achats, ma vie de rien. Quand il y a des nouveaux arrivages, ils ne disent pas un mot. C'est comme si je n'existais pas. Donc, je dois faire comme tout le monde et aller voir. Donc, moi, je ne suis pas plus au courant que vous. Ça me demande de chercher sur l'Internet. Ben, vous pouvez sur l'Internet. Hein? Tout le monde peut chercher sur l'Internet. Donc, moi, je suggère, vu que je n'ai plus pu faire ça, d'ailleurs, si vous m'envoyez une question comme ça maintenant, je vous dis, je ne fais plus ça. Vous pouvez aller sur le site Jordan et Père Reçu et poser la question dans les commentaires, mais je ne peux plus faire ça. C'est pas possible. J'essaie de réduire les nombreuses heures que je passe par semaine à répondre aux questions. Et c'est une façon de faire.
Isel Lamontagne, c'est même pas une question, c'est un commentaire. Elle veut te dire que tu es son mentor au jardin et en plantes d'intérieur. Merci d'être là.
Merci beaucoup du commentaire, je l'apprécie.
Sylvie Aubin, en zone inondable, que suggérez-vous comme plante pour prévenir l'érosion?
Bon, ça c'est compliqué, dans le sens qu'il y a beaucoup de plantes qui peuvent convenir. Vous avez des plantes à toutes les catégories, arbres, arbustes, vivaces, des listes longues de même. On travaille sur un texte peut-être pour le site web sur le sujet, mais ceux qui connaissent mes listes, je fais des listes de 400, oh, c'est terrible, je n'arrive pas à m'arrêter quand je parle dans ces choses-là, et ça prend des jours à préparer. Fait que je n'ai pas encore fait ça. Par contre, partout au Québec, dans différentes municipalités où ils ont des problèmes d'inondation et d'érosion, la ville ou la municipalité ou la région a publié des textes sur le sujet. Ils ont des listes. Les autres, ils se limitent aux plantes indigènes d'habitude. Mais ce n'est pas grave. Et je vous donne juste quelques exemples. Le plus facile, c'est d'aller chercher sur ces pages-là, parce que vous avez beaucoup plus de choix. Exemple, le célèbre art rouge, le cornouiller à tige rouge, qu'on voit partout dans la nature. C'est une excellente plante pour ça parce que ça fait des racines profondes, nombreuses, très jeunes, et donc occupe du espace et tient la terre en place. Le plus bas des graminées vivaces tiennent le sol en place avec des longues racines profondes. Mais il y en a beaucoup, beaucoup plus d'exemples que ça. Et évidemment, certaines plantes sont capables de tolérer être énervées plus longtemps. Et on va trouver sur les sites des villes ou des municipalités des listes qui indiquent près de l'eau, plus haut, encore plus haut. Donc, c'est bien pratique. Moi, j'aurais consulté un de ces places-là.
Guylaine Bouchard, est-ce qu'il est possible de faire refleurir, de faire refleurir le Kalanchoe?
Absolument. Le Kalanchoe refleurit facilement. Ah! Il y a des conditions, bien sûr. Il y en a toujours. La question, il faut que ce soit des jours courts. Le Kalanchoe, comme le poinsettia, comme le cactus de Noël, c'est les jours courts qui stimulent la reprise de la floraison. Et si la plante ne reçoit pas des jours courts, ça fait que du feuillage. Et c'est même encore plus à cheval sur ça que le cactus de Noël a besoin de jours courts. Mais s'il y a un peu de lumière en soirée, bah, ça peut lui parler. C'est pas si pire. Le poinsettia et le Kalanchoe, par contre, c'est vraiment, faut pas qu'il y ait de lumière le soir. Faut que ce soit un milieu où il n'y a pas de l'éclairage après, en bas de 12 heures, disons, maximum 11h58 minutes d'éclairage. Jamais plus. Et ça stimule la floraison. Ça prend du temps. Mais c'est pas pour rien qu'on appelle cette plante-là souvent Kalanchoe de Noël. Parce que, à partir du moment où les jours commencent à être à moins de 12 heures, donc vers le 21-22 septembre, ça prend jusqu'à Noël avant de fleurir. Donc, ça prend du temps. D'ailleurs, vous pouvez même forcer ou pousser un Kalanchoe fleur complètement en dehors de la saison. Les centres argenteurs le font tout le temps. Pour avoir des fleurs en plein été, en mettant dans une pièce. Il n'y a aucun éclairage naturel en le mettant sous une lampe, bien qu'une lampe forte, et réglant la lampe peut-être à 11 heures par jour. Ça va faire des fleurs. Ça va prendre deux mois à 3h30, et ça va faire des fleurs. Donc oui, on peut le faire. Mais si vous avez de la lumière qui vient de l'extérieur, vous avez mis ça devant la fenêtre, et le jour dehors, les pleins soleil, ce n'est pas fin, mais le soir, il y a vous allumez la lumière dans la pièce, ça va déjouer vos efforts. Il faut que ce soit une pièce où il n'y a pas d'éclairage qui arrive à la plante. Il faut que ça fleurisse. Je le vois souvent chez moi. J'ai plusieurs Kalanchoe. Certaines sont des variétés à fleurs, d'autres où c'est moins important. Et je vois très bien, si je mets la plante dans un endroit qui reçoit de l'éclairage de la maison le soir, ça ne fleurit jamais.
Annie Hull, plusieurs boîtes potagères surélevées dans notre jardin. Quoi mettre au printemps pour amender le sol?
Et normalement, on va mettre, au moins d'avoir d'autres choses, si vous avez remarqué quelque chose de spécial. Du compost, habituellement, c'est ce qu'on met pour amender le sol. Le compost va rajouter de la matière organique, qui est intéressant pour plusieurs niveaux. Ça nourrit les microbes magnifiques du sol. Ça se décompose, ça devient des matières organiques, etc. Et c'est ce qu'on va normalement mettre. On peut toujours mettre de l'engrais aussi, peut-être pas aussi vite dans la saison, mais on peut en mettre aussi pour donner de l'engrais un peu plus rapidement aux plantes également.
Clémence Carrier, pour le fenouil à gastache, doit-on absolument faire un traitement au froid? Cette plante est annuelle ou vivace?
Cette plante-là est vivace, mais vivace à croissance rapide. Normalement, ce serait un traitement au froid obligatoire pour cette plante-là, qui est un peu lent au début, mais après ça, sa croissance accélère. Donc, c'est vraiment une plante un peu lente, mais qui devient très, très, très forte et dense avec le temps. Et c'est une vivace.
Marielle Larenarde nous revient avec une autre question. Y a-t-il assez de soleil pour cultiver un hydrangé si j'ai du soleil jusqu'à 10 heures le matin seulement? Merci pour tous les bons conseils.
Écoutez, l'été, le soleil se lève à quoi? 4 heures du matin. C'est donc 6 heures de soleil. Oui, absolument.
Lise Doyon. J'ai des arbres fruitiers à planter dans une terre qui n'a pas été cultivée depuis longtemps. Dois-je ajouter à la plantation des mycorhizes, du biochar, du BRF sur le dessus de la terre?
OK. Allons-y, l'un après l'autre. Mycorhize, c'est pas un qui travaille depuis longtemps. Il est fort probable, mais là, je présume que c'est une terre quand même de Jodec, pas un stationnement ou une chose semblable. Probablement que les mycorhizes se placent si ce n'est pas été travaillé. Quand on travaille la terre, on détruit les mycorhizes très souvent. Mais il y a probablement déjà des mycorhizes. Mais moi, je vais en mettre au cas où, juste pour être certain. Pas ces mycorhizes sont tellement bénéfiques. Donc ça, je vais en mettre. Biochar. Le problème avec le biochar, c'est qu'on ne sait pas grand-chose de ce produit-là. C'est sorti de nulle part. Je pourrais raconter toute l'histoire, si vous voulez. Mais on en sait très peu de choses. Et on ne sait surtout pas qu'est-ce que ça donne en climat froid. On ne sait pas le biochar qu'on nous offre ou qu'on fabrique. Est-ce que c'est adapté ici ou c'est vraiment le fouillis total? Donc, ce n'est pas évident de parler de biochar. Je ne peux pas recommander ce produit-là. Et j'ai beau voir des publications qui le recommandent. Quand on essaie de trouver des détails ou qu'on pose des questions à ces gens-là, ils ne sont pas capables de répondre. Ils ne savent pas. Ils présument que c'est utile. Écoutez, moi, j'ose douter un peu des avantages de biochar. Ce n'est pas reconnu mondialement. Beaucoup de scientifiques disent « Wow, 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 pas si vrai que ça. » Et ce qu'on pense à le biochar, ce n'est peut-être pas. En tout cas, on se met... Et d'ailleurs, l'origine de biochar, on a trouvé des sols en Amazonie qui contenaient beaucoup de charbon. Et la conclusion est que ces anciens sites de jardin où on a racheté du charbon de bois et que ça donnait une terre qui est restée riche, malgré tout. Mais finalement, il paraît que ce n'est pas vrai nécessairement. Ça peut être d'autres choses complètement. Donc, okay. Dans 20 ans, 40 ans, on va savoir quoi dire sur le biochar. Mais moi, personnellement, je ne sais pas quoi dire là-dessus. Côté BRF, bois ramial fragmenté. Ça, c'est des branches déchiquetées avec le feuille qu'on peut obtenir, par exemple, dans un arboriculteur. Et ça, on peut le mettre en surface. Pas de problème du tout. C'est un excellent paillis. C'est très riche aussi. Donc, ça, on peut en mettre. Donc, voilà. Je pense que c'est ça. Voilà.
Annie Hull, j'ai des phalaenopsis. Quel terreau prendre pour les rempoter? Ben, elle a écrit les tempoter, là, mais j'imagine que c'est rempoter. Les racines aériennes semblent asséchées.
Ça se peut que les racines soient asséchées. Mais ça prend un terreau pour reculer. Ça se vend comme tel, dans n'importe quelle jardinerie, vous en trouverez. On peut toujours s'en fabriquer en mélangeant les morceaux d'écorce avec le seigne, avec le perlite, différentes choses comme ça. Finalement, souvent, ça coûte plus cher que d'avoir acheté le produit de base. Fait que, à vous de juger pour une seule plante, moi, je devrais acheter un sac de terreau. C'est pas la fin du monde, hein, acheter ça. Parce que ça prend un terreau extrêmement aéré. Le fait que les racines aériennes soient asséchées, en tout ou en partie, ne change pas grand-chose pour la plante. Elle va surtout aller chercher son eau dans le terreau, de notre façon de le cultiver. Dans la nature, c'est autre chose. Parce qu'elle pousse les branches et les racines vont attraper l'humidité dans l'air, les minéraux qui tombent, des fics, etc. Mais ce n'est pas si vrai que ça dans la maison. Donc, les racines aériennes sont plus ou moins inutiles. Par contre, quand on rempote, donc l'idée, on peut faire tomber l'ancien terreau, on peut couper les anciennes racines qui sont pourries. Et quand vous êtes rendu aux racines aériennes, si vous voyez que c'est complètement desséché, coupez-les. Si vous voyez que c'est juste l'extrémité qui est desséchée, coupez cette partie-là. Et en le replantant, vous allez baisser la plante plus profond. Et vous allez rajouter une couche de terreau par-dessus. Et là, les racines vont peut-être enterrer un peu. Ils vont peut-être reprendre vie. C'est comme ça qu'on remporte une orchidée. D'ailleurs, vous allez voir sur le site Jardin Paresseux, vous allez trouver des méthodes pour remporter une orchidée.
Anne-Marie Gélina, j'ai des feuilles déchiquetées et du bois provenant d'essouchage sur mon potager et j'ai l'intention de les mélanger à la terre au printemps. Serait-il mieux de laisser le tout sur la surface?
Ça, c'est une question intéressante. Et en partie, ça dépend de quel bois. Est-ce que c'est un bois assez putréfiable qui disparaît vite ou un bois qui va rester 40 ans sans se décomposer? Parce que ça fait une grosse différence. Vous ne voulez pas avoir des morceaux de bois autour de votre terre. Mais si vous avez un produit qui va se décomposer vite, on peut le faire. Moi, je dirais que probablement, ce sera mieux de le garder en surface quand ça commence à se décomposer et se rendre au point, ça devient comme comprimable. Quand on peut écraser un morceau de bois, c'est en train de pourrir. Ce sera le moment pour le mélanger au sol. Mais ça dépend de ce que vous avez comme bois. C'est difficile à généraliser avec ça.
Ça va être, j'imagine, tout près de la dernière question, peut-être deux. Andrel Gussin. J'ai un dracina qui touche au plafond chez moi. Y a-t-il une bonne manière de le tailler?
Le dracina, vous le coupez où vous voulez. Aucun problème. Vous le coupez haut, vous le coupez court. Vous n'avez que trancher. Si vous prenez peut-être une petite scie, vous coupez. Et là, de là, vous laissez une plaque en tige. Ça va recommencer à pousser. Des fois, vous avez même deux branches. Mais la plante n'a pas porté à ramifier, malheureusement. Mais on peut couper n'importe où quand on a un dracéna. Il faudrait, parce qu'au plafond, ce n'est pas très beau. Le haut, vous pouvez le bouturer hein, et faire une deuxième plante, si vous voulez.
Dernière question, Brigitte Morin. J'aurais besoin d'un couvre-sol pour le dessus d'un champ d'épuration, entre parenthèses, pour sceptique. Que suggérez-vous?
Moi, je vais vous suggérer d'aller voir sur le site web Jardinier Perreux, chercher plantes, champ d'épuration, et vous allez voir une liste de plantes qui sont recommandées. En général, tout couvre-sol va convenir, n'importe quel, sauf que certains aiment plus le soleil, d'autres plus l'ombre, etc. Donc, il faut quand même penser un petit peu, mais à peu près n'importe quoi. Et ça va tous les plantes basses. On ne mettra pas des plantes hautes sur un champ d'épuration. Et voilà, c'est la fin de l'émission pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été présent, d'avoir écouté. Je vous invite à visiter mon site web www.jardinierperreux.com. Un grand merci, comme toujours, à Michel et à Marlène, Michel Bédard, Marlène Bordeleau. Et merci beaucoup d'être venu. Je vais te retrouver la semaine prochaine, toujours à 10h le mercredi. Bye-bye, bon jardinage à tous.
Bye-bye tout le monde.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en disant thank you very much, Monsieur Trenet. On y voit aussi des statues.
Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine.
L'acte de la beauté, un documentaire de Nicolas Paquet.
La propriété appartient très précisément à personne.
Venez à la rencontre de la ferme collective Sagittaire, l'œuvre de Jean Bédard, écrivain, philosophe et paysan.
Devant le grand jardin triomphant que je vois, un sentiment se forme de lui-même. C'est beau à pleurer.
L'acte de la beauté, dès le 25 février au Cinéma Quartier.
Merde! L'émission vient de finir!
Vous avez manqué votre émission préférée?
Il y avait un super beau programme aujourd'hui!
Cessez de vous taper la tête sur les murs! Toutes les émissions de CKIA FM sont disponibles en balado-diffusion.
Qu'est-ce que je fais?
Allez sur le site internet ckiafm.org et écoutez en ligne ou téléchargez votre émission préférée en MP3.
Ah, je me sens tellement mieux, là!
Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale vous convie à un tour complet de l'actualité, région par région, en compagnie des journalistes des différentes stations de l'Association des radios communautaires du Québec. Édition nationale, c'est tous les jeudis 16h à l'antenne de CKIA 88.3 FM et ckiafm.org.
Ça va? Super. Pas pire pantoute. Numéro 1. Ça roule? Bien, merci. C'est cool. Comme sur des roulettes. Ben correct. Quand on se fait demander comment ça va,
On dit souvent que tout va bien, même si c'est pas toujours le cas. Si ça ne va pas, parlez-en. Pour trouver de l'aide, appelez InfoSocial 811. Parce que parler, c'est commencer à aller mieux. Un message du gouvernement du Québec.
Bonjour, ici Aude Malaret. Vous habitez Limoilou, dans un quartier à proximité? Vous empruntez